J'aimerais parler ce matin sur comment revenir à Dieu, dans Luc chapitre 15, verset 11. Il est écrit, il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Et je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Il nous arrive tous de nous égarer, de prendre des mauvais chemins. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas la voie, ce n'est pas le chemin que Dieu a prévu pour nous. C'est bien déjà de le réaliser, mais c'est encore mieux de faire comme ce fils qui était perdu, de faire demi-tour et de revenir dans la communion avec Dieu. Car ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. C'est pareil lorsqu'on prend la voiture et qu'on se rend dans un endroit et nous avons pris une mauvaise direction. Eh bien, nous avons le bon sens de faire demi-tour pour revenir dans une route que nous connaissons pour aller dans la bonne direction. Ça, c'est l'intelligence humaine. Et n'importe qui peut le faire. Car nous savons que ce n'est pas en continuant sur cette route-là qu'on va arriver à destination puisque c'est la mauvaise. Mais sur le plan spirituel, c'est exactement pareil. Il s'agit de faire un demi-tour parce que nous sommes orientés vers une voie de perdition et que cette issue, c'est la mort et c'est la mort éternelle, et de revenir dans la bonne direction qui est la direction de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais voir quelques éléments de ce récit qui est une parabole de Jésus qui nous montre comment on va revenir à Dieu. Premièrement, les versets 11 à 13 nous parlent des caractéristiques de ce fils qui va se perdre. Mais c'est un fils de la maison. C'est quelqu'un qui connaissait le Père. Et dans cette parabole, le Père, c'est l'image de Dieu. Mais le fils, c'est notre image. Il y a deux fils, on va s'intéresser juste au premier ce matin. Mais le fils, ça nous représente. Ce sont les personnes qui s'éloignent de Dieu et à un moment donné de leur vie, s'égarent dans le monde, dans son péché, et qui à un moment donné ont cette possibilité de se repentir et de revenir à Dieu. Mais quelques caractéristiques sont mentionnées à partir du verset 11. D'abord, on voit son orgueil, car c'est un jeune homme audacieux. Je ne sais pas qui oserait faire ça encore aujourd'hui, d'aller voir son père qui est encore vivant et de lui dire, voilà, tu n'es pas encore mort, mais j'aimerais déjà, par avance, avoir ma part d'héritage. Quel père de famille accepterait une parole comme ça de son propre enfant ? Ça veut dire que son fils, il le considère déjà presque comme mort et qu'il n'accepte plus sa paternité. L'héritage, ce n'est pas avant le décès du père. L'héritage, c'est quand le père est décédé, bien, il y a une part qui revient au fils. Mais lui, il veut tout de suite ce qu'il devrait avoir que bien plus tard. Et il est tellement orgueilleux, il est tellement effronté qu'il a l'audace tout simplement de demander à son père, « Mais toi, c'est comme si tu étais mort à mes yeux, mais déjà je voudrais toucher la part qui me revient de l'héritage. » Proverbe 30-32 dit ceci, « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et que tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. » L'orgueil va toujours nous pousser à des actes de folie. C'est un acte de folie qu'est en train de réaliser ce jeune homme que de demander l'héritage. Il manque de respect pour son père. Il n'exprime aucune gratitude. Et c'est vrai encore aujourd'hui que certains enfants n'ont aucun respect pour leurs parents. Ils ont claqué la porte, ils sont partis, ils ne prennent pas de nouvelles, ils ne s'inquiètent pas de leurs parents, ils vivent comme s'ils n'avaient pas de parents. Ça existe. C'est quelque chose de terrible. Mais ça, ça nous parle de la méchanceté qui est attachée au fond du cœur humain et qui montre que nous sommes tous pécheurs et tous portés au mal, qui que nous soyons. Car si nous pouvions sonder les cœurs, il n'y a que Dieu qui le fait, eh bien nous y verrions de la haine, de la méchanceté, de la violence, mais plein de choses que nous n'imaginons même pas. Mais Jésus en parle dans Marc 7, 21. Il dit ceci, « C'est du dedans, et Jésus a bien sondé les cœurs. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Et donc, qu'est-ce que nous dit Jésus? C'est qu'en analysant le cœur humain, car Jésus le passe au scanner, c'est-à-dire le scanner divin, il voit nos cœurs. Eh bien, dans nos cœurs, il y a des choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas la gloire de Dieu et qui ne devraient pas y être. Et il dit, c'est du dedans que viennent toutes ces choses. Et il va nous expliquer que pour en être délivré, il faut demander pardon à Dieu et demander à Dieu de changer nos pensées et notre cœur. Car si nous ne recevons pas le cœur de Dieu, le cœur nouveau, le cœur que Dieu veut mettre en nous, c'est un cœur aimant, c'est un cœur de compassion, c'est un cœur de bonté, c'est un cœur qui écoute, qui est sensible à la souffrance des autres. Si Dieu ne met pas en nous ce cœur-là, il n'y aura pas de régénération, de restauration, de vie nouvelle possible. Donc, cette méchanceté est là dans le cœur de ce jeune, comme dans le cœur de beaucoup d'êtres humains. Et puis, une autre caractéristique, c'est sa rapidité à faire le mal. Car le texte dit « peu de jours après ». Il a reçu l'argent, peu de jours après, il part pour vivre dans un pays éloigné, dans la débauche. Peu de jours, c'est-à-dire il y a peu de temps à perdre. J'ai perdu assez de temps dans la maison du Père, c'est-à-dire la maison de Dieu. C'était pour lui comme une prison. Il n'avait pas sa liberté. Et il s'est dit, moi je veux profiter de ma vie sans avoir de compte à rendre à Dieu. Pourtant, il avait une famille, il avait des parents qu'il aimait, il avait même un frère, il avait un toit, il avait la nourriture, il avait tout ce qu'il faut pour s'épanouir et vivre sa vie et puis prendre son envol. Mais non, il a préféré tout quitter du jour au lendemain. Comme cet homme, dont j'ai entendu le témoignage, cet homme qui était marié depuis au moins 15 ans et qui du jour au lendemain, parce qu'il a rencontré une ancienne connaissance, vous savez, par les réseaux internet, de rencontrer les anciens collégiens, les anciens du lycée, tout ça. Il a rencontré une jeune fille dont il était très amoureux dans le passé. Et tout ça s'est revenu dans sa mémoire. Et il a quitté sa femme, ses enfants, sa maison, toute sa situation, pour suivre cette femme qu'il a retrouvée 15 ans plus tard. Quel drame! Une famille brisée, donc divorce. La maison vendue, le travail, il faut tout recommencer. C'est une catastrophe. Et c'est ça qui nous montre la rapidité pour faire le mal. J'ai été surpris par la rapidité d'un homme qui avait bâti sa vie avec une épouse, des enfants, et bien, ils avaient tout ce qu'il faut pour être heureux, bon, pas de problème dans la vie, un bon revenu. Et puis du jour au lendemain, à cause de cette séduction, cette tentation, il est prêt à ruiner une vie qu'il a construite. Quel drame! Mais quelle rapidité pour faire le mal! Dans la Bible, vous avez l'exemple d'un homme qui s'appelait Géasi. Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Et lorsque Naaman, le Syrien, a été guéri de sa lèpre et que c'était un ennemi du peuple de Dieu, Élisée l'a renvoyé en paix dans son pays parce qu'il avait accepté Dieu dans sa vie. Mais Géasi ne voyait pas ça d'un très bon œil et il a dit « Mais mon maître, il ménage ce Syrien. ce Syrien, c'est un ennemi du peuple de Dieu. Moi, je vais courir après lui, je vais courir après lui et je vais lui demander de l'argent pour moi-même. Et la Bible dit qu'il a couru, voyez, la rapidité pour faire le mal. Pourtant, c'est un croyant dont nous parlons ici, il s'appelle Géasi. Il a couru après Naaman et il a eu de l'imagination, car le péché va vous donner des idées. Il a menti, il a inventé une histoire. Il dit, il y a des prophètes très pauvres qui sont arrivés chez mon maître. On aurait besoin de 2 ou 3 tuniques et puis quelques talents d'argent. Eh bien, tu en veux un? Non, prends-en 2. Et Naaman, le général syrien, lui donne 2 talents. Et il le presse à partir avec ça. Oui, le péché nous presse à faire le mal. Mais cela a mal tourné pour lui, puisque il a été dévoilé, car Élisée était rempli du Saint-Esprit, et il a vu le péché dans lequel était son serviteur. Et il a dit, la lèpre qui s'attachait, qui était sur Naaman, va s'attacher à toi maintenant. Et il a fini sa vie lépreux. Car le péché, le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. C'est la mort. C'est une lèpre spirituelle qui va contaminer sa vie. Et c'est vrai que cet homme croyant, Géasi, eh bien, il a fini sa vie lépreux. Et il ne faudrait pas qu'à nous, ça nous arrive en tant que chrétiens, d'être constamment gagnés par le péché et de finir notre vie comme lépreux spirituel, c'est-à-dire dans le péché et dans la mort spirituelle. Une autre caractéristique, c'est sa fuite loin de Dieu. C'est impressionnant. La Bible dit « Il partit pour un pays éloigné, ce jeune homme. » Un pays éloigné de la maison du Père, peu importe où, mais le plus loin possible. Mais où voulez-vous fuir? C'est ce que dit le psaume 139. « Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit ?» Dieu est partout. Dieu est partout. Mais le Père le laisse libre, car nous avons été créés libres et responsables. Ce jeune homme cherche le bonheur, il cherche le pays éloigné où il sera heureux. Moi, je l'appelle le pays des illusions. Le pays où l'on croit que tout va être formidable. Et en fait, ça va bien se passer dans un premier temps. Et il va dépenser tout l'argent qu'il avait, mener une grande vie, la débauche. Mais voilà, Jésus n'a jamais forcé personne à rester avec lui. Lorsque les disciples ont trouvé que ses paroles étaient tout dures, trop dur, ils l'ont abandonné, certains. Et Jésus a dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père, céleste, c'est-à-dire Dieu, toute plante que Dieu n'a pas plantée, elle sera déracinée. C'est-à-dire que si notre vie, elle n'est pas fondée en Christ, si nous n'avons pas accepté Christ réellement comme sauveur, même si on est né dans une famille chrétienne, comme ce jeune homme, il est né dans la famille du Père, le Père céleste est Dieu, on peut dire qu'il a connu Dieu dans son enfance. Mais il n'était pas fondé en Christ. Il n'avait pas accepté Dieu dans sa vie. Et toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu, si nous n'avons pas reçu dans notre cœur la vie d'en haut, la nouvelle naissance, la vie céleste, pof, tôt ou tard, ça sera déraciné, ça ne tiendra pas. Et dernier élément concernant ce jeune, c'est sa vie de débauche. Malgré l'éducation morale qu'il a eue dans la maison du Père et les bons préceptes qu'on lui a enseignés, eh bien, il a tourné le dos à cette vie droite selon les critères de la parole. Il a préféré vivre sa liberté. On est dans ce monde. Chacun aujourd'hui veut avoir le droit de faire ce qu'il veut quand il veut. On manifeste pour avoir les droits. Le droit, par exemple, de vivre ensemble sans être marié, aux yeux de Dieu, c'est un péché. Le droit de se marier entre hommes ou de se marier entre femmes. Mais là encore, aux yeux de la parole de Dieu, c'est un péché. Le droit d'adopter des enfants, mais peu importe la condition, s'il n'y a plus de repères de famille, que la personne soit seule, ou 2 hommes ou 2 femmes, on adopte des enfants, c'est des manifestations pour avoir le droit de procréer tout en restant célibataire. Donc ces manifestations, ces demandes de droit vont devenir de plus en plus fortes. Et le problème de la débauche, parce que derrière le mot débauche, en fait, qui a une connotation pour nous assez réduite, c'est un terme assez général. La débauche, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans le désordre de la vie que mène le monde. La débauche. La débauche n'a pas de fin. Parce que si vous vivez dans la débauche, loin du Seigneur, c'est-à-dire dans une vie qui n'est pas conforme à la parole, mais vous ne serez jamais rassasié, parce que quand vous vivez de cette manière-là, vous cherchez toujours davantage de bonheur, davantage de paix, mais vous ne l'obtenez jamais. Nous avons entre les mains la Bible. Mais la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est le code divin de Dieu. Un petit peu comme on a le code de la route. Eh bien, la Bible, elle est le code divin de Dieu qui nous donne la meilleure manière de réussir sa vie et de marcher dans la vie pour plaire à Dieu. Mais il y a un autre code, c'est le code humain, avec ses lois, avec ses préceptes. Et il n'est pas sur la même longueur d'onde que le code divin. Maintenant, nous qui voulons être chrétiens ou qui sommes déjà chrétiens, ben, nous devons calquer notre vie sur le code divin. Peu importe comment les gens vivent, ce qu'ils ont décidé, eux, ils sont sur un autre code. Et surtout, ne dites pas « Ah oui, mais les autres, ils le font, donc moi aussi, je peux le faire. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre référence, ce ne sont pas les autres. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Et c'est ça, mon code. Ce n'est pas parce que même 99% a choisi de vivre de cette manière que parce que la majorité a choisi cela, ben parce que moi, je vais le faire, parce que tout le monde le fait. Parce que sinon, mon code n'est plus le code divin, mon code, ce sera le code du monde. Mais par contre, qu'est-ce que dit Dieu de cette situation? Qu'est-ce que dit Dieu sur le concubinage? Qu'est-ce que dit Dieu sur le mariage entre deux hommes et deux femmes, l'homosexualité? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ça, c'est important. Et ça, c'est notre code divin. Alors bien sûr, nous respectons les orientations de chacun, la vie de chacun, car effectivement, nous avons été créés libres et responsables. Mais nous ne devons pas participer au péché d'autrui et nous ne devons pas tout accepter parce que, soi-disant, ben, c'est la majorité où tout le monde le fait, non? Alors pourquoi le jeune homme a-t-il quitté la maison du père? Pourquoi est-ce qu'il va dans la débauche? Pourquoi est-ce qu'il va chercher ce bonheur qu'il n'a pas? Eh bien, en fait, la réalité, c'est qu'il y a un vide dans notre cœur, comme dans le cœur de ce jeune homme, et que ce vide, on va essayer de le combler par tous les moyens possibles, que ce soit l'argent, que ce soit l'alcool, la drogue, la débauche, tout ce que le monde peut proposer. Mais qu'au bout d'un certain temps, quand on a fait le tour et que le cœur est aussi vide, eh bien, on se rend compte, non, il n'y a rien qui peut combler un cœur, en fait. Vous pouvez tout essayer, vous avez peut-être déjà tout essayé, et vous sentez bien qu'il n'y a rien. Mais il n'y a que Dieu qui peut le faire. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit, c'est Colossiens 2.10. Il le confirme. Paul dit à propos de Jésus-Christ, « Vous avez tout pleinement en Christ, en lui, qui est le chef et la domination de toute autorité. » Si Paul peut dire que nous avons tout en Christ, c'est une vérité spirituelle et que vous ne trouverez pas dans ce monde. Ah non, vous n'aurez pas tout pleinement, vous ne serez pas satisfait pleinement dans ce que ce monde propose. Mais venez à Christ, venez à Dieu et vous aurez tout pleinement en lui. La paix du cœur, le repos de l'âme, la satisfaction, le sens de notre existence, c'est Dieu qui le donne. Ailleurs, Jésus dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Ça, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Tout pleinement en lui et une vie d'abondance. La deuxième partie de cette parabole, c'est que le jeune homme va passer du rêve à la réalité. Ah, il s'était fait une image de la vie loin de Dieu, idyllique, mais la réalité lui montre c'est tout le contraire. Car c'est la famine. La famine, ça représente les épreuves de la vie. Et la famine va révéler l'état de notre cœur par rapport à Dieu, notre état spirituel. Et on voit qu'il est très bas chez cet homme. Il va commencer à se trouver dans le besoin. Une autre version dit, il commença à manquer de tout. Donc, il va expérimenter ce que c'est que d'être loin de Dieu, de ressentir le vide dans son cœur. Oui, c'est vrai, il a goûté les plaisirs de la vie, mais vous savez, ça passe vite. Et puis finalement, vous n'en avez jamais assez et vous recherchez davantage. Mais la fois suivante, ce n'est pas aussi fort. Donc vous cherchez plus loin, vous cherchez plus fort, mais vous n'y arrivez pas. Au bout d'un moment, c'est l'insatisfaction. Donc c'est normal, c'est un processus. Et au fond, raisonnez dans votre esprit et faites l'analyse. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous menez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes comblé dans votre cœur? Si vous venez à Dieu, il va donner un sens à votre vie. Pourquoi? Parce que nous avons été créés corps, âme et esprit. Alors, beaucoup de gens s'occupent du corps. C'est-à-dire, on se nourrit, on s'occupe de soi, et c'est bien, il faut le faire. Mais à l'intérieur, il y a une âme. Et ce qui est le plus important, c'est l'âme. Vous voyez, quand vous recevez une lettre ou un courrier très important, par exemple, d'un ami, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. L'enveloppe, vous allez l'ouvrir, vous allez peut-être la jeter, mais vous conservez le courrier parce qu'il a de la valeur, il y a des mots, il y a de l'affection. Il y a quelques paroles d'exhortation, d'encouragement, et c'est bon. Eh bien, cette lettre, elle a de la valeur, on va la conserver. Mais l'enveloppe, on va la détruire. C'est pareil pour nous. L'enveloppe, c'est le corps extérieur. Il va disparaître, il sera détruit d'une manière ou d'une autre. Mais à l'intérieur, comme cette lettre à l'intérieur de l'enveloppe, c'est notre âme. Et notre âme, elle a besoin de Dieu. Comme une plante a besoin d'eau, notre âme, elle a besoin de Dieu. Et l'âme a une dimension d'éternité. C'est-à-dire, quand nous mourrons, notre âme, elle va aller auprès de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens, bien sûr, il faut avoir accepté Christ. Alors, cet homme aurait pu se tourner vers Dieu beaucoup plus tôt. Il voit que ça ne va pas. Il voit que plus il avance dans la vie, plus c'est le péché, plus les amis l'entraînent dans la débauche. Mais il est lié. Et il ne se tourne pas vers Dieu, il continue. Et il va essayer de s'en sortir tout seul. Alors il va garder des pourceaux. Lui qui était libre, dans sa première condition, chez son père, il est maintenant esclave. Esclave du péché, c'est ce que Jésus dit. En vérité, Jean 8, 34, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, c'est le cas de ce jeune, c'est peut-être votre cas, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et qu'est-ce qui se passe dans son esprit, et peut-être dans le vôtre, c'est de dire, ben, je suis esclave du péché, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai ces addictions, eh ben, je serai toujours esclave. Et il y a une mentalité d'esclavage, de se dire, je m'en sortirai jamais. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Ça, c'est une impasse. Ce jeune est tombé dans une impasse. Et il ne pourra pas s'en sortir. Il a pris des mauvaises décisions. Peut-être vous avez pris aussi des mauvaises décisions. Vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas vous en sortir. Eh bien, il va tomber bien bas. Il va manger, enfin, il aurait voulu manger plutôt les carouges, c'est-à-dire la nourriture des porcs. La nourriture des porcs. Il était tellement affamé qu'il s'est dit, mais moi, je vois ces porcs, ils sont en train de déguster ces carouges, et moi, je suis là, j'ai rien à manger. Il mangeait que les racines, il mangeait que de l'herbe, il était affamé. Alors ça veut dire qu'il est tombé au plus bas. Il s'est mis au rang des bêtes. Et ça, c'est ce que le monde voudrait faire de nous. D'ailleurs, on est classé, selon les scientifiques, dans la catégorie des mammifères. Des animaux les plus intelligents. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des créatures de Dieu. À part dans la création, nous sommes privilégiés. Le sommet de la création de Dieu, nous sommes des êtres humains que Dieu a créés et qu'il a prévu un plan de salut pour nous. Et en mangeant ce qui est proposé aux animaux, c'est un peu comme si on mange ce que le monde nous propose. Et quand on mange ce que le monde nous propose, ça va commencer à influer sur notre mentalité, sur notre comportement, parce qu'on va commencer à vivre comme ces animaux. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Mais Jean 4, 34, voilà l'autre nourriture que Jésus propose. « Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il existe une autre nourriture que les carouges. Il existe une nourriture de Dieu, et elle est bonne. C'est la parole de Dieu, elle va nourrir votre âme. Troisième partie, c'est la bonne décision, les versets 17 à 19. La Bible dit, il entre en lui-même. Premier pas, c'est-à-dire qu'il analyse sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Et nous devons, en fait, quand tout va mal, et c'est vrai qu'il est tombé au plus bas, mais quelquefois, eh bien, dans notre orgueil, nos résistances, nous sommes tombés au plus bas. Et c'est là qu'on va analyser notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Et objectivement se dire, j'ai fait une erreur, je me suis trompé. Et là, il se rappelle, mais il a connu la maison du Père, c'est-à-dire, il a connu, on pourrait dire, une personne qu'elle a connue autrefois, Dieu, elle a connu l'Église, mais elle a tout quitté. Deuxième pas, il dit, je me lèverai. Ça, c'est la décision que nous devons prendre. Personne n'est obligé de rester dans le péché. Vous pouvez dire au nom de Jésus, je demande pardon et je me relève. Ça, c'est la possibilité que Dieu nous donne. Il nous tend la main. Parce que le diable vous dit, tu ne pourras pas t'en sortir, moi je te tiens, t'es lié. Le péché est plus fort, tu seras toujours à terre. Ça, ce sont des mensonges de Satan. Car le péché a été vaincu à la croix, Jésus a triomphé du péché, mais venez à Christ et les chaînes du péché vont tomber dans le nom de Jésus. Et là, vous direz, je me lèverai au nom de Jésus, comme ce jeune homme. Les mensonges, c'est fini. Tu peux te relever dans la foi. Troisième pas, la repentance. Il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quelle belle phrase. Et il le dit de tout son cœur, dans son être intérieur. Il reconnaît qu'il est coupable. J'ai péché. Est-ce qu'on peut dire ça dans notre cœur? J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre Dieu. Je reconnais, je ne cherchais pas d'excuses, ni à cause de mon âge, peut-être à cause de ma famille, ni à cause de mes amis, ni à cause de la société. Il aurait pu accuser tout le monde. Il dit, je reconnais que j'ai péché, moi, contre toi. C'est ici que va se jouer la lutte décisive de la victoire qu'il va remporter. Parce que le diable n'aime pas cette confession-là. Et il sait que s'il se repent, il sera pardonné de ses péchés et il va devenir une nouvelle créature. Et ça, il ne veut pas. Mais le jeune homme a le pouvoir, vous en avez le pouvoir, la possibilité par la foi. Quatrième pas qu'il fait, c'est maintenant l'humilité, puisqu'il dit à son père, il veut lui dire « traite-moi comme l'un de tes serviteurs ». Rappelez-vous, quand il est parti, il était plein d'orgueil, « donne-moi l'argent, je vais le dépenser comme je veux ». Et là, quand il revient, c'est « traite-moi comme l'un de tes serviteurs ». Ce n'est plus le même homme. Son orgueil a été brisé. Il est prêt à prendre la dernière place. Et nous ne pouvons pas vivre dans la grâce de Dieu avec l'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Regardez par exemple Éphésiens chapitre 4, verset 1. Ça, c'est l'humilité dans l'Église, ne pas se comparer aux autres. « Je vous exhorte donc, moi, c'est Paul qui parle, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, et particulièrement votre pasteur, avec amour. » Voilà. Ça, c'est pour Toulousois que j'ai rajouté cette petite parenthèse. Voilà. Que Dieu nous aide à marcher dans l'humilité et avec amour. Et puis Philippiens 2, 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et si nous mettions ces deux versets en pratique, qu'est-ce qui se passerait? Il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de dispute, il y aurait pas... ce serait l'amour. On serait vraiment rempli de la présence de Dieu. Mais c'est ça ce que l'ennemi ne veut pas. Il veut détruire cette humilité, il veut détruire cette unité. Et il va utiliser tous les moyens pour que l'orgueil revienne. Pour qu'il y ait des dissensions, des divisions. Oui, mais alors on ne vit pas vraiment la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à revenir à lui. Et puis, l'autre étape, c'est il se leva et alla vers son père. C'est-à-dire qu'il va mettre en pratique les décisions qu'il a prises dans son esprit. Il a dit, ben, moi je vais le faire. Je vais me convertir, je vais me repentir. Je reviens à la maison de mon père, je reviens à Dieu. Mais ça ne reste pas dans sa tête. Il se lève vraiment et il va vraiment voir son père pour lui demander pardon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident des choses et qui ne passent jamais à la pratique. Combien de fois j'ai entendu « Ah, j'ai décidé de faire un régime. » Mais quand arrive le midi, déjà, la bonne décision qu'on a prise le matin même, elle est remise en question. Vous voyez ce que je veux dire? On a pris des décisions, mais voilà. Alors on dit « Bon, allez, je commencerai demain finalement. » Voilà, on repousse, hein, on repousse. Mais non, non, non. Quand on a pris une décision pour Dieu... Voilà, on a décidé aujourd'hui, alors on vient. Ça tombe bien, demain, il y a jeûne et prière. Voilà, comme ça, hein, ça va vous aider, tous ceux qui ont pris la bonne décision du régime, et bien demain, venez prier, vous ne serez pas tentés par manger quelque chose. Et quatrième partie, c'est l'accueil du Père. L'accueil du Père, parce que le Père le regardait de loin, ça veut dire que Dieu attend notre retour. Le Père, lui, il le vit quand il était encore loin. Ça veut dire qu'il vous voit vous débattre dans le péché, et il vous regarde au loin et dit, mais quand est-ce qu'il va revenir à moi, celui-là? Quand est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est une belle image de l'amour de Dieu qui pense à nous. C'est l'image aussi du pardon. Regardez, c'est le Père qui court vers son Fils et qui se jette dans ses bras. C'est même pas le Fils qui court, c'est le Père, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu nous attend et qu'il veut se jeter dans nos bras pour nous prendre avec lui. Il nous aime et il est plein de compassion. Et puis, de suite, alors, il ne laisse même pas le temps au Fils de dire tout son discours. Il n'a pas le temps de dire « traite-moi comme l'un de ses serviteurs ». Il a juste le temps de demander pardon. Non, il dit « prenez pour lui la plus belle robe ». Ça, il faut se rappeler qu'il vient avec ses haillons, il vient comme il est. Et c'est comme ça que nous venons à Dieu. Venez à Dieu comme vous êtes, avec votre vie. Vous êtes peut-être dans la débauche, dans le péché, mais venez à Dieu comme vous êtes, avec vos haillons sales, malodorants. Vous connaissez l'odeur du cochon? Moi, j'ai eu l'occasion de faire une colonie de vacances qui était à 200 mètres d'une porcherie. Il y avait 200 cochons dans la porcherie. Mais je peux vous assurer que quand le vent soufflait en direction de la colonie, l'odeur du cochon, mais vous l'aviez sur vous. Vous transportiez l'odeur du cochon avec vous, partout. Ça sentait le cochon partout. Mais le cochon, c'est une odeur. Un jour, il y a un animateur qui a eu cette idée, le groupe des enfants. Allez, on va visiter la porcherie. C'était encore pire. Les cochons, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça vous remplit, et même ça rentre dans votre narine, ça rentre dans vos poumons. C'est horrible, l'odeur du cochon. Eh bien, lui, il est venu comme ça, mais ça, c'est l'image du péché. On est rempli du péché quand on est loin de Dieu. Et notre vie, elle sent pas bon. C'est pour ça que Paul prend l'image d'avoir la bonne odeur de Christ. Parce que Christ va vous donner son parfum, sa bonne odeur, l'odeur de Christ. Ce n'est pas l'odeur du péché, l'odeur de ces cochons. Il va être transformé. Le péché laissera toujours des marques indélébiles. Votre vie, elle est peut-être comme un livre. Vous avez raté, vous avez fait beaucoup de ratures. Il y a beaucoup de pages noires. Mais aujourd'hui, on peut faire une nouvelle étape. On peut tourner une page par la grâce de Dieu. Et Dieu va vous donner les vêtements du salut. Il lui donne l'anneau au doigt. C'est le signe d'appartenance. Vous faites partie de la famille de Dieu. J'entendais le témoignage de Lémis. Est-ce qu'il est là, Lémis ? Il est là. Il a donné son témoignage samedi, pas celui-là, mais celui d'avant. Et j'ai relevé une phrase de son témoignage, car vous savez qu'il est arrivé, il était musulman dans cette église, il est venu au parcours Alpha. Et il a dit, j'ai trouvé dans cette église une famille. Et j'ai trouvé que c'était bien. Ah, voilà, il y a un frère qui est d'accord. J'ai trouvé dans cette église une famille. Ah, voilà. Elle est là, la famille. Il n'y a pas qu'un seul frère. Voilà, gloire à Dieu. Une famille. Et je dirais une belle famille, la famille de Dieu. Et c'est bon d'avoir des frères et sœurs dans la foi. Et oui, il était sans famille et aujourd'hui, il a une belle famille. Alors, après le culte, vous irez tous saluer votre nouveau frère. Il y a 120, 130 personnes à saluer tout à l'heure. Gloire à Dieu. Et puis, on lui met des souliers aux pieds en signe de liberté. Car seuls les hommes libres avaient des souliers, les autres, les esclaves, ils marchaient pieds nus. Voyez, la conclusion de Jésus, c'est au verset 24, c'est vraiment le résultat spirituel. Mon fils était mort. Pourtant, il était bien vivant, mais spirituellement, il était mort. Il vivait dans la débauche. Et c'est ça, la réalité. Vous vivez dans la débauche, vous êtes loin de Dieu, vous vivez dans le péché. Mais vous êtes mort spirituellement. Il dit, mon fils était mort. Et il est revenu à la vie. C'est ça ce que Dieu propose, c'est la nouvelle naissance. Une vie nouvelle en Christ. Il était perdu, il n'avait pas de repère, il vivait dans son péché, loin de Dieu. Et maintenant, il a été retrouvé, il suit le code de la route divin, il est heureux, il a la paix, il est comblé. C'est ça ce que Dieu nous propose. J'aimerais qu'on prie un instant. Et alors qu'on est là devant le Seigneur, bien, on va placer nos cœurs. Peut-être Dieu veut sonder votre cœur ce matin. Moi, je ne vous connais pas tous, mais peut-être quelqu'un vient pour la première fois ou les premières fois, et il se dit, mais moi, j'aimerais connaître cette vie d'abondance. Je vois bien que je suis dans le péché, je vois bien que ma vie, ça n'avance pas, je suis dans une impasse. Je vois bien que je suis bloqué. Je vois bien que je ne m'en sors pas. Vous êtes comme ce jeune homme qui est dans son bourbier à garder ses cochons. Il n'y a pas d'issue. Vous avez peut-être même des pensées de suicide, des pensées de vous supprimer parce que vous n'avez pas d'issue. Mais ça, c'est le plan du diable pour votre vie. Il existe un autre plan, le plan de Dieu. C'est un plan parfait, c'est un plan béni, où Dieu vous tend la main ce matin et vous dit, mon enfant, j'ai pour toi une belle robe, j'ai pour toi un anneau, j'ai pour toi des chaussures, mais reviens à la maison. Reviens à la maison. Accepte de te repentir aujourd'hui. Alors qu'on a les yeux fermés, la tête baissée, j'aimerais prier avec vous. Et peut-être il y a une personne qui voudrait dire, moi je voudrais revenir à Dieu ce matin. Je ne veux pas continuer dans cette voie de péché. De toute façon, vous n'avez pas d'issue, c'est la mort. C'est la mort éternelle, c'est la séparation avec Dieu. Mais si vous faites cette simple prière, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je veux changer de vie. Je veux mettre ma vie en ordre avec Dieu. Eh bien, Dieu peut faire une œuvre extraordinaire dans votre vie. Il en a le pouvoir de vous donner un nouveau cœur, une nouvelle destinée. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors qu'on est là devant Dieu, et c'est un moment solennel, j'aimerais vous laisser la possibilité de prendre position. Quelqu'un s'est éloigné de Dieu, quelqu'un vit loin du Seigneur. Il le ressent, il le sait dans son cœur. Et de toute façon, Dieu le voit. Et ce n'est pas devant un homme que je vais vous inviter à lever la main, mais c'est devant Dieu. Et de dire simplement, est-ce que vous voulez revenir à Dieu. Vous êtes égaré, vous êtes loin du Seigneur, vous voulez revenir à Dieu. Je vous invite à lever la main et je vais prier pour vous spécialement. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans ce cas ? Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore une autre personne avant que je prie? Voilà, béni sois-tu Seigneur pour ces bien-aimés. Voilà, ces personnes, que Dieu vous bénisse. Mais je vais vous demander de faire un pas supplémentaire. Je vais vous inviter à vous mettre debout. C'est entre vous et Dieu. Mettez-vous debout à votre place. Car Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Vous prenez position et vous vous dites, je me lève et je reviens à toi, Seigneur. Je me suis égaré, je me suis perdu. Et ce matin, je prends la décision dans mon cœur de revenir. Alors, je vous invite à, dans votre cœur à répéter cette simple prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je me suis égaré loin de toi. Mais ce matin, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux te donner mon cœur et je veux vivre un nouveau départ. Seigneur, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus, je te demande pardon et je sais que tu as le pouvoir par ton sang précieux de me pardonner. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.